Pour la journée mondiale de l'eau hier, ces manifestants argentins s'étaient donné rendez-vous dans le centre de la capitale, Buenos Aires. Sur leur pancarte, des messages pour sensibiliser à la raréfaction d'une ressource essentielle. L'eau vaut plus que l'or, l'eau pour le peuple.
L'extraction minière, l'agro-industrie, la fracturation hydraulique et l'élevage animal consomment des millions de litres d'eau et la polluent. En Argentine, 7 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau. Ou pire, elles ont accès à de l'eau contaminée.
Le droit à l'eau et à l'assainissement est un droit fondamental reconnu par l'ONU en 2010. Mais aujourd'hui encore, 230 millions de personnes, principalement des femmes et des enfants, passent plus d'une demi-heure par jour à aller chercher de l'eau au puits. Pendant que d'autres s'adonnent à leur sport préféré sur un green parfait en plein désert. Pour l'ONU, c'est un échec moral et mondial.
Nous vivons dans un monde d'une telle abondance, un monde tellement obsédé par l'innovation technologique que ces inégalités doivent nous faire agir.
La situation est d'autant plus critique que dans les pays où l'accès à l'eau pour tous n'est pas garanti, des conflits avec les États voisins apparaissent. C'est le cas sur les bords du Nil. En construisant un énorme barrage hydraulique, l'Éthiopie a provoqué de vives tensions avec l'Égypte et le Soudan situé en aval.
Le barrage éthiopien est une menace directe pour le Soudan. L'électricité produite par notre barrage de Meroé diminuera de 30%.
Aux enjeux géopolitiques s'ajoutent les dérèglements climatiques. Entre les inondations dévastatrices et les grandes sécheresses, le réchauffement de la planète risque d'accentuer les pénuries d'eau. Alors comment préserver l'eau? Peut-on spéculer sur l'or bleu comme on spécule sur l'or noir? Faudra-t-il un jour se rationner?
Pourquoi ne pas procéder à l'inscription dans la Constitution française du droit à l'eau et surtout à son assainissement? Céline Robert, est-ce que le droit à l'accès à l'eau potable est inscrit dans des textes juridiques français? Est-ce que c'est écrit quelque part?
Alors le droit à l'eau et à l'assainissement, il est reconnu par les Nations Unies comme un,
depuis
comme
10
un,
ans,
droit, comme un droit humain. Et il est aussi reconnu en France, puisque on ne peut pas, par exemple, couper l'eau, y compris à des mauvais payeurs. Et c'est vrai que c'est un droit fondamental, c'est la condition de la dignité, c'est la condition de l'hygiène, de la santé, c'est la condition aussi du développement d'activités économiques et agricoles. Et aujourd'hui, enfin, il y a le sujet en France, hein, où... la majorité, enfin la quasi-totalité de la population a accès à l'eau et à l'assainissement. Mais moi, ce qui me semble important de mentionner, c'est que dans le monde, c'est pas le cas partout. C'est plus de 30% de la population mondiale qui n'a pas accès à un service d'eau géré.
Eh ben justement, on va y revenir puisque c'est le chiffre du jour précisément.
Voilà. Céline Robert l'a dit. Notre chiffre du jour montre les inégalités absolues qui existent autour de cette question de l'eau. Un être humain sur trois sur cette planète n'a pas accès à l'eau potable. On aurait pu donner un autre chiffre. D'ici 4 ans, la moitié de la population mondiale souffrira d'un manque d'eau. Franck Galland, on parlait d'inégalité, ce n'est pas partout sur cette planète. Où se trouve ce qu'on appelle le stress hydrique?
Alors en fait, vous avez une diagonale de la soif qui part de Tanger et qui va jusqu'au nord-nord-est de la Chine.
On va voir une carte, je crois, en même temps.
Et cette diagonale de la soif traverse l'Afrique du Nord, la zone sahélienne. Aujourd'hui, vous avez 150 millions de Sahéliens, population qui va doubler dans les 20 prochaines années. Et depuis 20 ans, les ressources en eau disponibles au Sahel ont diminué de 40%. Alors si on continue cette progression, on arrive au proche Moyen-Orient. On traverse la péninsule indienne avec deux pays éminemment critiques que sont l'Inde et le Pakistan. C'est 1,47 milliard d'individus à eux deux, de puissance nucléaire et qui manque considérablement d'un accès à l'eau aujourd'hui, effectivement avec des mégalopoles indiennes et pakistanaises qui ne peuvent plus compter sur leurs eaux souterraines. Et puis vous allez sur la partie nord-nord-est de la Chine, 45% de la population chinoise, mais uniquement 15% des ressources en eau disponibles en Chine. Donc là, ça concerne effectivement pas loin de 3 milliards d'individus qui vivent dans des zones sous stress hydrique. Donc sous stress hydrique, on est à moins de 1000 mètres cubes d'eau par habitant et par an en termes de ressources renouvelables, ce qui est peu. Et on arrive, par exemple, sur un certain nombre de pays de l'Organisation de coopération islamique à 850 mètres cubes d'eau par habitant et par an en termes de ressources renouvelables, ce qui est éminemment peu. Et vous allez sur des pays comme le Yémen. J'avais écrit bien avant le conflit qui endeuille ce pays depuis 2015 que le Yémen serait sans doute le pays au monde le premier à disparaître à cause d'un manque d'eau, parce qu'une capitale comme Sanaa, par exemple, ne pouvait plus compter que sur 200 mètres cubes d'eau par an et par habitant en termes de ressources renouvelables, à savoir rien.
Agathe Ozen, quand on parle de manque d'eau, ça a des conséquences économiques, sociales, humaines. On meurt du manque d'eau. On meurt comment ?
Alors, on meurt...
De soif, de manque d'hygiène. Quelles sont les conséquences ?
C'est un ensemble. Il s'avère... Stress hydrique veut dire qu'il n'y a plus d'eau. Donc, plus possibilité de s'alimenter, plus possibilité de consommer de l'eau, éventuellement de cultiver un certain nombre de choses pour se nourrir. Et donc, du coup, une migration. On peut aussi manquer d'eau avec les pieds dans l'eau. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des pénuries économiques. Dans la mesure où on se trouve dans des situations en Afrique, zone tropicale ou zone subtropicale, où il n'y a pas les infrastructures qui permettent d'alimenter des réseaux et de conduire des réseaux d'eau potable et d'assainissement.
De l'assainir aussi, on ne peut pas assainir l'eau à ces endroits-là ?
Encore moins. Le problème de l'assainissement est souvent la dernière roue du carrosse.
Ce qui veut dire que des centaines de milliers de personnes meurent chaque année par défaut d'hygiène. Ce sont des femmes en couche, ce sont des enfants qui boivent de l'eau contaminée, qui meurent de diarrhées qui leur sont fatales.
Alors effectivement, il y a le fait d'avoir accès à de l'eau. On l'a ou on l'a pas, dans quelles conditions ? Et après se pose la question de la qualité de cette eau. Est-ce qu'elle répond aux normes de potabilité ? Tout au moins, est-ce qu'elle n'apporte pas de risque sanitaire pour les populations dans la consommation, mais aussi en tant que vecteur de maladie, éventuellement, ou par rapport à l'hygiène ? Et on a une insalubrité extrêmement importante dans un grand nombre de communautés et de populations.
Céline Robert, comment se répartit l'eau selon la consommation humaine, mais aussi l'agriculture et l'industrie ?
Alors, l'eau...
En France, par exemple.
Alors, en France, la France a un cas un peu particulier parce qu'il y a un usage pour la sécurité et pour le refroidissement des centrales nucléaires. Mais de manière générale, c'est 70% des prélèvements qui vont à l'agriculture, 20% à peu près à l'industrie et puis autour de 10% à l'eau potable.
Et on est en train de parler d'eau douce, évidemment. On ne parle que d'eau douce.
On ne parle que d'eau douce.
Et on rappelle que seulement 1% du volume d'eau disponible sur la planète, c'est de l'eau douce.
Non,
3%. C'est très peu.
C'est un peu moins de 3%.
C'est très peu.
3%. On en prélève aujourd'hui à peu près 17%. Donc le problème, c'est l'inégalité de la répartition qui était bien mentionnée dans cette diagonale de la soif. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a une différence entre la question de la ressource en eau et la question de l'accès à l'eau potable. On a des pays, je peux penser au Maroc ou à la Tunisie, où les taux d'accès à des services d'eau et d'assainissement sont assez élevé, alors qu'il y a peu de ressources. Et on a d'autres pays, on peut penser à la République démocratique du Congo, qui a des ressources extrêmement abondantes et qui pourtant a des taux d'accès aux services très très très, très faibles, parce que le service public d'eau potable et d'assainissement n'est pas construit, n'est pas financé, il n'y a pas de compétences et de moyens pour l'exploiter.
Et puis, vous avez d'autres pays qui sont soumis à extrême stress hydrique, comme l'Arabie Saoudite, par exemple, le Qatar, et qui ne dépendent que de ressources en eau alternative. Par exemple, le Qatar...
Qu'est-ce que vous appelez eau alternative ?
Alors, c'est le dessalement, par exemple. Ouais. Le Qatar, premier PIB par habitant de la planète devant le Liechtenstein, dépend à 99% de son eau de deux stations de dessalement. Et l'Arabie Saoudite a, au monde, les plus grandes capacités d'eau dessalée sur la planète. C'est chaque jour 7,5 millions de mètres cubes qui sont dessalés. Peut vivre dans des pays... à stress hydrique, mais il faut de la technologie.
Parce qu'ils ont la technologie pour eux, précisément. Est-ce que ce sont les meilleurs à savoir
l'énergie ? C'est très énergivore. Le dessalement est très énergivore.
Juste de moins en moins. 2 kWh par mètre cube, donc ça a beaucoup baissé, mais ça reste quand même énergivore.
Juste une question à Agathe Ozen, parce qu'on va revenir sur les aspects techniques. Juste une question. On a parlé de l'aggravation du stress hydrique sur cette planète. Est-ce que c'est lié à de nouvelles consommations ou est-ce que c'est lié au réchauffement climatique qui commencera à entamer notre capacité hydraulique ?
En fait, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'on a le réchauffement climatique qui vient exacerber un certain nombre de phénomènes. Donc limiter la pluviométrie, augmenter les périodes de sécheresse, faire des variations au niveau des saisons qui va conduire à des problèmes de disponibilité de la ressource.
Et des catastrophes naturelles aussi.
En parlant des inondations, des grands ouragans, etc. Et donc ces différents aspects vont avoir un impact direct sur... la demande en eau qui elle aussi augmente par une augmentation de la démographie de plus en plus grande, une augmentation de la demande qui se concentre en plus dans des zones les plus urbanisées, en général dans des mégalopoles. Évidemment, il va y avoir une demande en alimentation qui va générer une nécessité d'irriguer davantage encore l'agriculture. Donc la pression sur la ressource va être de plus en plus grande, non seulement en quantité, mais aussi sur la qualité. Parce que cette pression sur la ressource, elle va avoir des conséquences sur des pollutions, parce qu'on ne maîtrise pas tout. Et donc, on va en plus avoir une dégradation de la qualité de l'eau brute disponible pour les usages et les besoins essentiels.
Robert, les océans souffrent déjà de pollution, de l'action de l'homme. Comment est-ce qu'un écosystème en souffrance peut nous apporter l'eau douce dont nous avons besoin ?
Alors, bon, l'océan, comme vous le savez, c'est de l'eau salée. Donc, pour en faire de l'eau douce, il faut des technologies qu'on évoquait, qui sont le dessalement d'eau de mer. Dessalement qui est aujourd'hui répandu hein, dans un certain nombre de pays. On peut penser à l'Espagne, on peut penser à Israël et d'autres pays que vous avez cités. Et la difficulté du dessalement, c'est une solution dont certains pays ne vont pas pouvoir se passer, mais qui est vraiment à considérer au regard de son coût et au regard aussi de ses impacts environnementaux, puisqu'il y a des rejets de saumure, donc il faut gérer correctement.
De sel très concentré,
avec un petit peu de produits chimiques aussi. Ah donc oui, il faut s'assurer de leur bonne dilution. Et il faut ensuite s'assurer aussi, et c'est un problème important dans les pays en développement, que l'eau dessalée, qui coûte cher à dessaler, qu'on va envoyer dans les tuyaux, ne va pas être perdue dans des fuites. Et donc qu'on a en aval de ces moyens de production des infrastructures qui permettent qui sont suffisamment en bon état pour que l'eau arrive jusqu'à l'usager. C'est ce qu'on veut quand même.
Alors, il y a encore d'autres astuces, Franck Gallon. Recharge artificielle des nappes phréatiques ?
Oui, recharge artificielle des nappes. C'est-à-dire que vous allez dessaler de l'eau de mer et vous allez utiliser cette eau dessalée pour la rendre prisonnière des nappes. C'est exactement ce que fait Abu Dhabi, par exemple. Les Émirats ont les deuxièmes puissances de dessalement installées sur la planète, derrière l'Arabie Saoudite. Mmh. Ils dépendent énormément du dessalement, mais ils craignent une chose, comme les Saoudiens, comme les Qataris. C'est un incident en mer d'Arabie, pollution chimique de l'eau de mer, pollution par hydrocarbures, actions malveillantes type cyberattaque, sabotage. Et pour pouvoir répondre à toutes ces éventualités, effectivement, ils ont lancé un programme de recharge artificielle de nappes pour rendre prisonnière cette eau à hauteur de 23 millions de mètres cubes. Et l'objectif, c'est simple, c'est de donner à Abu Dhabi 4 jours d'autonomie. Pour pouvoir répondre à un incident sur une station de dessalement. Par rapport à ça, le Qatar fait complètement autre chose. Il est en train de construire de la main de l'homme les plus grands réservoirs au monde. C'est 10 millions de mètres cubes qui vont être emprisonnés, des méga réservoirs. Pour vous donner un ordre d'idée, le Guinness Book actuel, c'est 2 millions de mètres cubes, c'est en Arabie Saoudite, sur la côte ouest de l'Arabie Saoudite. Donc la recharge artificielle de nappes est une technologie, mais parlons surtout réutilisation des eaux usées, qui est un véritable, vrai beau sujet. Aujourd'hui, le champion du monde dans ce domaine, c'est Israël, 87%.
Ouais. C'est-à-dire le recyclage, la manière dont on pourrait recycler les eaux ?
Alors, on recycle les eaux usées. Alors nous, en France, on les traite pour les rendre propres à la nature, mais là, on les recycle pour les réinjecter en circuit fermé, de façon à fournir de l'irrigation, de l'arrosage d'espaces verts. Et l'État d'Israël est le champion du monde incontesté dans ce domaine. 87% de leurs eaux usées sont retraitées à des fins de vie humaine. Prenez la plus grande station nouvellement créée, celle de Chavdan, permet l'alimentation en eau du Negev, par exemple. Donc ça, ce sont des progrès technologiques qui vont nous permettre, c'est peut-être mon côté saint-simonien, mais qui vont nous permettre de sortir de cette ornière. Mais
encore faut-il des solutions.
Les politiques, encore faut-il que les financements mettent l'eau au cœur des priorités stratégiques, parce que c'est un problème de sécurité collective.
Alors, Claude.
What the fuck ? Eh bien, Agathe Ozen, la financiarisation, c'est un mot qui repoussoir, mais est-ce qu'en même temps, il ne faudrait pas donner de la valeur à l'eau, notamment en parler pour financer la recherche technologique, les avancées qui nous sortiront du stress hydrique ?
L'eau a déjà une valeur, c'est la valeur symbolique. Et la valeur symbolique, qu'elle soit sacrée ou profane, elle est essentielle.
Mais ça ne construit pas des usines, une valeur symbolique ?
Ça ne construit pas des usines, mais ça construit des usages derrière. C'est-à-dire que si on a une technologie extraordinaire qui va nous produire une eau qui ne répond pas à des usages ou qui n'est pas acceptée par les populations, là, ça peut poser un certain nombre de questions. Donc une valeur économique qui va être attribuée pour traiter de l'eau ne va pas être reconnue et donc utilisée.